Le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas ont percé la barrière Gaza-Israël en de multiples points, pénétré dans plusieurs kibboutzim et localités du sud d'Israël, tuant environ 1200 personnes et enlevant plus de 240 otages. À en croire la Haspara, la propagande d'État israélien, ce serait l'an zéro, l'anno domini et le lieu d'un commencement absolu. Comme s'il n'y avait ni occupation depuis 1967, ni blocus de Gaza depuis 2007, ni cycle de guerre 2008-2009, 2014-2021. Ainsi, l'événement est arraché à son historicité et donné pour un surgissement sans origine, ex nihilo. Dès lors, le paroxysme du conflit devient le point de bascule d'une équité qui n'a jamais vraiment existé dans le traitement de cette tragédie, où l'on donne raison au pouvoir israélien en le confortant plus que jamais dans ses positions belligérantes. Tandis que, sur le terrain, l'expansion des colonies en Cisjordanie se poursuit et la spirale des victimes palestiniennes s'alourdit. Cette politique expansionniste, voire impérialiste, revendique sa légitimité dans la pensée sioniste élaborée en Europe puis aux États-Unis à la fin du XIXe siècle sous l'égide de Theodor Herzl. Elle se donne pour moteur et pour alibi l'antisémitisme multiséculaire subi par les Juifs dans le Holocauste fut l'abîme. Dès son émergence, le sionisme, le retour à Sion, a suscité une vive contestation dans les milieux juifs intellectuels, religieux et ouvriers. Les uns y voyaient un anachronisme historique et une régression des droits humains annonciatrice de spoliation de terres palestiniennes. D'autres, dont certains courants religieux, y lisaient une hérésie, remplaçant la rédemption messianique, le retour à Sion, dont Dieu seul décide, par une entreprise politique qu'il impose. Certains, enfin, redoutaient une menace pour le judaïsme et les juifs, en rompant avec la vocation diasporique qui l'a façonnée d'une part, et le soupçon de double loyauté qui risque de peser sur les juifs d'autre part. Plus radicalement encore, certains intellectuels juifs contemporains tels que Yaakov Rabkin ou Shlomo Sand ont montré que le sionisme prolongeait une vision européenne profondément marquée par l'antisémitisme. Celle qui suppose que les juifs ne peuvent jamais appartenir pleinement aux sociétés où ils vivent. Selon cette lecture, le sionisme impose aux juifs un déracinement identitaire et érige en Palestine un rapport de domination et une opposition raciale envers d'autres peuples qui sont sémites aussi et présents de longue date sur cette terre. Autrement dit, l'antisionisme n'est pas une invention récente ni un simple masque de l'antisémitisme. Il est une tradition juive, riche, diverse, longtemps majoritaire, avant que la Seconde Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël n'inversent le rapport de force. Contrastant avec la situation actuelle, ces débats animaient hier la majorité du monde juif. Aujourd'hui, 2 ans après le 7 octobre, et 108 ans après la déclaration de Balfour, toute critique, qu'elle soit antisioniste ou qu'elle plaide pour la coexistence et une solution à 2 États, se voit trop souvent rabattue sur l'antisémitisme lorsque les détracteurs ne sont pas juifs ou sur la haine de soi lorsqu'ils le sont. Ce qui bloque le débat, fige les positions, rendant plus lointaine toute issue politique à ce conflit. En dehors des cercles intellectuels et militants, comment une large part de l'opinion juive est-elle passée d'un antisionisme assumé à la légitimation d'une politique sioniste qualifiée de génocidaire? Quel a été le tournant? Quelles étapes? Quelles figures ont marqué la contestation et la résistance à la normalisation? Et comment déjouer l'amalgame entre critique du sionisme et antisémitisme dans le débat contemporain? Chères auditrices, chers auditeurs, ce sont ces questions que nous explorons aujourd'hui avec notre invité, Michel Siboni.
Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des Rêves Lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur 4, à 20h.
Michèle Siboni, bonjour. Vous êtes militante de longue date et porte-parole de l'Union juive française pour la paix, UJFP. Vous êtes née à Rabat et vous avez vécu en Israël dans les années 1970 pour vos études de lettres et de cinéma à l'université de Haïfa. Engagée dans les réseaux anticolonialistes et de solidarité avec la Palestine, vous intervenez régulièrement dans le débat public pour défendre une critique du sionisme et plaider la justice et l'égalité des droits. Cet engagement vous amène en 2023 à coécrire avec un collectif d'auteurs l'ouvrage « Antisionisme, une histoire juive » dont on souhaiterait parcourir les thèses avec vous aujourd'hui.
C'est très exactement avec Béatrice Aurès et Sonia Feyman, qui sont deux militantes de l'UJFP avec moi.
Alors justement, on va commencer par rapport au livre. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objet de ce livre et le but de ce livre ?
Alors, il s'agissait de... Ça fait longtemps que dans mon association à l'Union juive française pour la paix, on regarde se construire un amalgame entre antisionisme et antisémitisme qui nous paraît extrêmement dangereux. Parce qu'il sert à faire taire toute critique sur la politique israélienne envers les Palestiniens. Et aussi parce qu'au fond, il permet de rabattre le politique sur le racisme. Si on regarde un petit peu dans le temps comment cet amalgame s'est construit en France, il s'est construit par exemple en 2003 par un rapport. Il a commencé un petit peu avant 2003. Je dirais que ce qui a allumé, qui a fait le déclic en France pour la construction de cet amalgame, ça a été en 2002 le vote du Parlement européen pour condamner Israël et demander la suspension de l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël et qui fait de lui un partenaire économique privilégié. Il fallait absolument lutter contre ce vote qui, de toute façon, n'a pas eu d'effet concret sur le terrain. On sait que l'Union européenne n'a pas d'institution très démocratique, c'est pas le Parlement qui décide. Mais il s'agissait aussi de bloquer les révoltes de toute une jeunesse qui arrivait en politique par la Palestine, et notamment d'une jeunesse arabe en France. Ce qui fait d'ailleurs que l'amalgame s'est construit aussi contre il a monté en même temps que l'islamophobie, si vous voulez. Il s'est construit contre une jeunesse arabe qu'il fallait faire taire, et en général, contre toute critique d'Israël. Et le rapport Ruffin en 2003, commandité par Sarkozy, affirme par exemple que dans les banlieues se développe un antisionisme qui est en fait de l'antisémitisme. À une époque où nous-mêmes, nous allions parler dans les banlieues et à la rencontre de gens dans les banlieues, et nous nous rendions compte que dès qu'on était dans la politique, il n'y avait aucun problème de racisme. Et que quand quelqu'un se trompait quelque part et assimilait juifs et israéliens, nous on a tourné dans les banlieues avec des israéliens, qui étaient des militants à l'époque de Tahrir, je me rappelle. Tahrir, c'est un mouvement de... ça veut dire... je ne saurais plus le dire exactement. C'est plus que coexistence. C'est une sorte de fusion, le Tahrir. Et c'était des militants israéliens qui arrivaient avec le bras cassé parce qu'ils s'étaient fait casser le bras par l'armée israélienne. Et quand les gens dans les banlieues que nous visitions, où nous allions discuter, voyaient ces gens, ils comprenaient immédiatement que la question n'était pas une question ni religieuse, ni raciale, et que c'était une question politique. Et donc, cet amalgame s'est aussi développé. Rappelez-vous de l'affaire Jussieu. À l'université de Jussieu, il y a une motion qui est votée pour interrompre la coopération universitaire avec Israël. Et là-bas, le président du CRIF de l'époque, Roger Kuckermann, déclare « L'antisionisme est le nouvel oripeau de l'antisémitisme ». Je peux continuer comme ça et arriver jusqu'en 2017. Mais en 2016, déjà, il y a un événement très important qui construit internationalement cet amalgame. C'est la fondation de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, c'est l'IHRA, vote une définition de l'antisémitisme dans laquelle les groupes de pression sionistes ont introduit des exemples qui étendent l'antisémitisme à des opinions antisionistes. Et cette déclaration-là, l'IHRA, tout le travail du sionisme, c'est de la faire voter avec les exemples, puisque c'est dans les exemples qu'est posé le problème de l'antisionisme et cet amalgame, par tous les pays dans le monde. Ils ont déjà réussi pour une bonne partie. Et surtout, en 2017, c'est là que nous, on s'est énervés, si j'ose dire, la déclaration de Macron au Veldiv, à l'anniversaire de la rafle du Veldiv, devant son ami Benjamin Netanyahou, explique... attendez, je vais vous dire sa citation exacte. Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Et là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, parce que nous savions que sur un siècle de sionisme, les premières grandes réactions antisionistes, ça a été des réactions juives, et que le monde juif d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était essentiellement religieux d'ailleurs, était essentiellement antisioniste. Les sionistes étaient une petite minorité.
Oui, on va explorer cette histoire. Donc, ce que je me disais en lisant le livre, c'est que malgré le préfixe « anti », qui indique que c'est une réaction au sionisme, l'antisionisme, d'une certaine manière, il a précédé, alors c'est pas vrai, c'est pas exactement comme ça, mais l'antisionisme, en tout cas, s'ancre dans une tradition plus ancienne que le sionisme.
Ben, c'est pas juste et c'est pas faux ce que vous dites. C'est-à-dire, l'antisionisme, il s'ancre souvent dans le judaïsme. Et le judaïsme est évidemment antécédent au sionisme. Le sionisme s'est approprié, a voulu s'approprier. C'est lui qui construit aussi cet amalgame entre judaïsme et sionisme. On le verra sûrement plus tard à la lecture du livre.
Mais alors... Justement, parlez-nous un peu de cette tradition diasporique, cette tradition du peuple juif en exil, puisque l'antisionisme s'ancre dedans.
Il y a en tout cas quelqu'un qui raconte très très bien ça, c'est Amnon Raz Krakotskin, dont un des textes est dans notre livre, qui est un professeur d'histoire juive qui enseigne à l'université de Beersheba en Israël. En fait, c'est le monde qui est en exil, c'est pas que les Juifs. Dans l'histoire juive, le monde est en exil et doit être réparé. Et le judaïsme exilique consiste à... Le judaïsme exilique consiste à assumer l'exil et à vivre... partout, selon la loi, il y a une expression en hébreu d'ailleurs qui m'échappe maintenant, mais qui le dit, selon la loi de là où on vit. La fonction du judaïsme en exil, c'est de préserver la religion, de préserver l'histoire et la religion. Pas de devenir un nouveau nationalisme. C'est ce que d'ailleurs la plupart des auteurs dont nous avons sélectionné les textes. Et je dois dire qu'on a vraiment dû les sélectionner, parce que même comme ça, on arrive à 400 pages et c'est énorme. On a été étonnés par l'ampleur du corpus qu'on a rencontré. Mais ce que disent la première réaction de tous les grands rabbins de l'époque, hein, du judaïsme libéral au judaïsme le plus orthodoxe, c'était « mais quel rapport entre judaïsme et nationalisme ? Vous êtes en train de transformer le judaïsme en quelque chose qu'il n'a jamais été ».
Alors, on va essayer de...
Et en ce sens, pardon, je termine sur ce que vous disiez tout à l'heure, le sionisme est une rupture dans l'histoire juive, et pas l'inverse. C'est-à-dire le sionisme a essayé de faire, de raconter une histoire dans laquelle le peuple juif était parti en exil et que cet exil était une rupture qu'il avait sorti de l'histoire. Et le sionisme se présentait comme celui qui allait réintégrer le peuple juif dans l'histoire. En réalité, si on regarde l'histoire du peuple juif et surtout l'histoire religieuse des communautés en exil, en diaspora, on se rend compte que c'est le sionisme qui constitue une rupture.
Alors, justement, on va parler un peu du sionisme, parce que je pense que finalement, beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui s'est passé principalement entre 1897 et 1905, avec des figures comme Theodor Herzl. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Theodor Herzl et, du début du sionisme ?
Theodor Herzl, c'est d'ailleurs un des problèmes auxquels on s'est confronté. Nous, on voulait parler d'antisionisme. On ne voulait pas raconter le sionisme. Donc, on était sans arrêt dans une dialectique qui consistait à essayer de répondre, c'est d'ailleurs la méthode qu'on a fini par utiliser, de répondre aux arguments sionistes contre l'antisionisme, ce qui définit en creux le sionisme lui-même, mais notre objet, c'est l'antisionisme.
C'est pour ça que je n'ai pas commencé par cette question.
Je n'ai directement par définir le sionisme. Alors Herzl, c'était un journaliste autrichien qui faisait partie de la bonne société juive d'Autriche, qui a assisté à la dégradation de Dreyfus en France, et à l'affaire Dreyfus, donc, qu'il a couvert, comme on dit en termes journalistiques, et qui est arrivé à la conclusion que les Juifs ne pouvaient plus vivre, ailleurs, enfin dans les endroits où ils vivaient. En réalité, si on regarde bien, les bourgeoisies juives ont été sionistes, mais parce que ce qui les dérangeait dans le processus d'assimilation qu'elles avaient dans leurs différentes sociétés, c'était les juifs pauvres, les Ostjuden, les juifs de l'Est, d'Europe de l'Est, les juifs de Russie, qui eux étaient dans une grande pauvreté et souvent persécutés.
Et qui émigraient vers l'Europe de l'Ouest.
Et on avait envie de les pousser ailleurs et de pouvoir continuer tranquillement son processus d'assimilation en Europe et en Occident.
Donc ça s'est passé à peu près entre 1897 et 1905.
Oui, alors il y a eu après des congrès sionistes. Il y avait des mouvements, sionistes au Havet Sion, les Amants de Sion en Russie. Qui cherchaient effectivement des lignes de fuite, des solutions aux persécutions et qui avaient commencé à immigrer. Alors après, c'est compliqué le sionisme, parce qu'il y a eu plusieurs courants. On peut en parler aussi ultérieurement. Mais il y a eu quand même, il y a eu un courant, le sionisme s'est présenté comme un mouvement d'émancipation nationale. D'accord, fondée sur une appartenance religieuse, que les Juifs ont refusé d'abord, très majoritairement. Ensuite, j'ai perdu le fil, excusez-moi.
Vous parliez des courants du sionisme, qu'il y avait l'appartenance religieuse.
Oui, alors dans l'idée de l'émancipation nationale, du sionisme, il y avait un courant qui disait que le foyer d'origine était certes la Palestine, mais celui qui dit le mieux ça, c'est Buber, et je peux vous lire un extrait de lui, si vous voulez. Hein. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a toujours eu deux courants. Il y a eu un courant qui était pour la régénérescence morale des Juifs et du judaïsme dans leur berceau d'origine, mais qui n'était pas un courant qui voulait s'intégrer comme un courant de possession du territoire. C'est un courant qui voulait y vivre, oui, et éventuellement partager. Oui. Et puis il y a eu le courant qui a gagné, hein, faut pas l'oublier, ce courant. Parce que quand on nous ramène toujours l'histoire du mouvement, de la composante d'émancipation nationale et de ressourcement juif, etc., d'accord, mais ça c'est le courant qui a perdu dans le sionisme. Mmh. Le courant qui a gagné, c'est celui qui a incarné le sionisme dans un État, l'État juif, l'État d'Israël, et qui veut la domination absolue de la mer au Jourdain et encore beaucoup plus loin, si j'ai bien compris. Ça peut comprendre des morceaux d'Irak dans la perspective, et qui veut la supériorité absolue des Juifs sur cette terre-là.
On va revenir, du coup, juste après à l'antisionisme. On va écouter une pause musicale. Alors, Dario, qui est à la réalisation, est-ce que tu peux démarrer
là ? Ah non, mais il faut que j'explique d'abord.
Ah, vous l'expliquez d'abord ?
Oui. Ah. Vous me permettez, j'explique ce que c'est, parce que je tiens beaucoup à ce qu'on écoute cette chanson. Alors, Ahmed Mouine, c'est un musicien qui vit à Gaza aujourd'hui. S'il est encore en vie, parce que les dernières nouvelles qu'on a eues de lui disaient qu'il avait faim et qu'il était très mal. Et il est revenu jouer et chanter avec les enfants de Gaza dans un camp de tente sur une plage après les expulsions. Et on peut imaginer ce que ces enfants qui sont autour de lui pendant qu'il chante avec eux ont traversé et vu au milieu de des horreurs et des bombardements, etc. Ce sont souvent des enfants séparés de leurs parents qui sont morts, alors qu'on a des parents qui cherchent désespérément leurs enfants. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est servi du bruit des drones, qui est un bourdonnement insupportable, pour composer cette chanson et la faire chanter aux enfants, et il la chante avec eux. Et ce que dit la chanson en arabe, elle est traduite en français cassé, mais ça fait rien, c'est « Porte-le, Jamal, porte-le ». Et c'est un appel à soulever le poids de la vérité, la voix du courage et l'esprit qui refuse de se taire. Un hommage à ceux qui ont retenu la vérité jusqu'à leur dernier souffle, à toute âme qui a répandu la lumière à travers des paroles honnêtes et qui a refusé de se taire ou d'être réduite au silence face à l'injustice. Paix à leurs âmes, leur mémoire restera à jamais une lumière dans nos cœurs. Ça, c'est les paroles de la chanson.
Hello everyone, how are you? I miss you a lot, really. Today there's a lot of drones. I'm gonna sing a song today, the drone. Ah, shil shil ya jamali shil ya hawatak balla dam shayid ma'attar bil hilil ya lilu wail wail al-zalimi wail wail min Allah لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل يا ويل ويل عالظالمي ويل 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 لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالليل
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Michel Ciboni, on va revenir à l'antisionisme. Après avoir expliqué un peu ce qu'était le sionisme et les deux courants du sionisme, on va justement parler des courants de l'antisionisme. Il y a quatre courants principaux chez les Juifs qui s'opposent à l'idée du retour en Palestine, ou en tout cas de la vocation nationale du peuple juif. Alors, ces courants, ce sont les religieux, les patriotes assimilationnistes, les marxistes révolutionnaires et les libéraux. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et décrire pourquoi ces différents courants, selon quels arguments ils s'opposent au sionisme ?
Alors, dans les religieux, on va distinguer les orthodoxes et les communautés libérales américaines. Au fond, l'argument principal, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est transformer le judaïsme en nationalisme. Pour les religieux orthodoxes, c'est hors de question, et pour les grands rabbins, leaders des plus grandes communautés orthodoxes et libérales américaines, pardon, il y a aussi quelque chose qui entre en contradiction avec leur implication comme citoyens américains. Et qu'ils refusent absolument.
Ça, c'est pas le courant, justement, patriote assimilationniste, ce courant qui...
C'est pour une autre raison.
Ah, les
assimilationnistes, ce sont les grandes bourgeoisies, enfin, les bourgeoisies libérales, qui ont fait beaucoup d'efforts. C'est ce que dit Montaigu lui-même en 1917, hein, au moment de la déclaration Balfour. Lord Montaigu, qui est le seul ministre juif de la couronne, écrit un mémorandum... contre l'antisémitisme du projet Balfour, il le dit quasiment en ces termes.
Le projet Balfour, qui est la déclaration...
La promesse d'un foyer juif en Palestine.
D'accord.
Et il dit, vous allez nous sujet de la couronne, et nous avons mis du temps à gagner ce statut-là, et à être intégrés dans nos sociétés. Vous allez faire de nous des étrangers dans nos propres pays. Et vous allez nous envoyer dans un endroit où nous allons rencontrer des habitants qui ne seront pas d'accord avec notre présence. En plus, il a une vision très très claire depuis le début. Ouais. En fait, si on lit le mémorandum de Montaigu, qui est dans le livre d'ailleurs, tout y est. Hein. C'est là que tout commence. Et même s'il y avait des mouvements sionistes avant, 1917, c'est très important parce que c'est le moment où l'Empire britannique et donc l'impérialisme s'emparent de l'idée du sionisme et décide qu'il va s'en servir. Et il s'en empare d'autant plus joyeusement, si j'ose dire, que par exemple Balfour a grandi dans un milieu et a été élevé dans un milieu évangélique. Et l'évangélisme, même en anglais, c'est un... Comment dire ? Le sionisme... Ça remonte au XVIIe siècle et c'est pas juif, c'est pas une idée des juifs, c'est pas une idée d'Herzl. C'est une idée des évangélistes religieux qui est que dans le Armageddon, ça s'appelle la fin du monde, hein, le moment de la fin du monde, tous les juifs doivent avoir rejoint la terre d'origine pour que le Messie arrive, pour que Jésus revienne, et ces juifs doivent soit se convertir, soit être détruits. C'est ça l'évangélisme. Et ça remonte au XVIIe siècle. Donc, quand le sionisme juif arrive à la fin du XIXe siècle, l'évangélisme a déjà imprégné beaucoup, beaucoup de gens. Et par exemple, Balfour, qui avait été élevé dans cette tradition.
Alors, on a aussi le courant des marxistes révolutionnaires.
Oui. Alors, les marxistes révolutionnaires, d'une manière générale, ce sont ceux qui voyaient la résolution du problème juif, si on peut dire, utiliser ces termes-là, dans l'internationalisme, dans la résolution de la condition de tous les êtres humains, comme l'indique le marxisme, si vous voulez. Mais par contre, il y avait le Bund, l'Union Générale des Travailleurs de Lituanie, Pologne et Russie, et c'était le premier parti politique juif, socialiste et laïque de Russie, qui considérait que lui défendait l'idée de... il appelait ça... Dukait, c'est licité. Le fait d'être là où on vit, d'être ici. Le fait d'être ici, c'est licité, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire là où on vit, on réclame nos droits, on réclame une autonomie culturelle. C'est ce qu'il réclamait pour les Juifs, puisque la langue parlée par tous ces gens-là à l'époque, c'était le yiddish. Il y avait des théâtres yiddish, une littérature yiddish, une culture yiddish. Il réclamait, au sein de l'Empire russe dont il faisait partie, tous ces gens, une autonomie pour la minorité qu'il représentait. Et puis, il y avait... parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, du côté du monde arabe, les ligues irakiennes et égyptiennes, proches des partis communistes de l'époque, qui étaient très sensibles à ce que faisait l'impérialisme, puisqu'elles étaient encore sous mandat britannique, et elles visaient la libération du colonialisme britannique. ou français d'ailleurs. Et donc, ce sionisme-là venait mettre les Juifs en porte-à-faux, alors que pour eux, l'idée, c'était la libération générale du pays.
Et donc, le quatrième courant, c'est le courant libéral.
Moi, j'ai appelé ça humaniste-démocrate.
Ah, mais humaniste-démocrate, bon. Oui.
Dans lequel on trouve des personnalités, alors, qui ont été antisionistes à des moments. Parfois, elles ne le sont pas restées. Parfois, elles le sont restées. Mais on a effectivement des gens comme Hannah Arendt, Martine Buber, et d'autres. Je ne les ai pas tous en mémoire, mais je pense qu'on peut mettre Judith Butler dans cette catégorie. Je pense qu'on peut mettre... attendez, je vais regarder le sommaire pour vous dire ça rapidement. Ariella Azoulay Adi Ophir. Bon, on va mettre plus de contemporains, sûrement, dans cette catégorie-là, ouais. De philosophes, de penseurs, d'auteurs, qui se sont...
Quel est leur, oui, justement, quel est leur principal, principaux arguments ?
C'est pour ça qu'on les a appelés humanistes et démocrates. Leur principal argument, c'est que... ce qui se passe est un déni de justice et aussi une construction qui met en avant l'inégalité comme valeur. Voilà. Et évidemment, ils s'y opposent. Jacqueline Rose dit ça. Butler le dit très bien. Elle dit c'est très bizarre. Dans le texte dans l'extrait qu'on a choisi, elle dit. Les Occidentaux défendent des valeurs d'égalité héritées des Lumières. Et puis finalement, quand on arrive au sionisme et à Israël, ces valeurs-là n'ont plus de sens. Une question que nous, on a souvent posée ici. La République française, c'est la République de tous ses citoyens. Pourquoi ce qui est valable en France et que tout le monde prétend défendre ici ne serait pas valable là-bas ?
Les Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
Je reviens un peu sur l'antisionisme, les antisionistes patriotes assimilationnistes. Est-ce que finalement, on ne peut pas se dire d'une certaine manière que c'est un luxe occidental, c'est-à-dire qu'on voit des figures aux États-Unis, en Angleterre, qui disent « nous, on a obtenu des droits dans nos pays ». Donc on n'a pas à aller vivre dans un État juif.
Ils réagissent sûrement depuis là où ils sont, effectivement, de leur pays. Mais au fond, ils aimeraient bien que les Juifs gagnent ces droits-là partout où ils vivent. Et ça, c'est au fond, bizarrement, pas très loin de l'internationalisme. C'est réclamer l'égalité partout pour tous.
Alors, on va parler un peu de la construction du livre que vous avez construit, en fait, en 5 chapitres autour des 5 arguments que renvoient de façon récurrente les sionistes aux antisionistes. Alors, on a le premier, c'est ce que vous appelez « sionisme et judaïsme ».
Je voudrais dire un mot là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai commencé tout à l'heure à l'expliquer. Nous, on ne voulait pas écrire un livre sur le sionisme. On voulait parler de l'antisionisme. Donc, c'était un peu compliqué. On avait commencé dans la méthode par tenter des présentations chronologiques. Et puis, d'abord, on trouvait ça ennuyeux. Et donc, on est arrivé à une présentation plus dynamique et plus argumentative. Donc, on a cherché les 5 grands arguments du sionisme contre les antisionistes. Et nos textes sont autant de réponses à chacun de ces arguments. Alors effectivement, le premier, c'est le sionisme
et judaïsme.
Et se prétend l'incarnation moderne, enfin nouvelle, la réincarnation du judaïsme, pour le dire plus exactement. Alors effectivement, au départ, lors du premier congrès de 1897, premier congrès sioniste mondial, les sionistes cherchaient pas un territoire vers la Palestine. Ils étaient plutôt laïcs et athées. Et ils cherchaient plutôt... ils ont envisagé l'Ouganda, l'Argentine, le Birobidjan. En fait, ils cherchaient une terre à coloniser. Il faut bien se rappeler que le sionisme, fin du 19e, il porte toutes les caractéristiques européennes de la fin du 19e. Il est conforme à la vision de l'État-nation, c'est-à-dire un État, une langue, une religion, une culture, des frontières et un État. Et chacun chez soi et Dieu pour tous. C'est comme ça qu'ont été démantelés l'Empire austro-hongrois
et l'Empire ottoman par la suite.
Et l'Empire ottoman. Et la deuxième composante de cette deuxième moitié du 19e, on va dire, c'est le colonialisme. Qui ça dérange, l'idée d'aller s'installer dans une colonie alors, on est en plein dans les grands empires coloniaux, français, anglais, etc. Donc le sionisme porte ces deux caractéristiques-là. C'est je vous l'ai dit, Herzl, ce n'était pas un paysan de Russie. C'était un bourgeois autrichien. Et en fait, ce n'est qu'au 5e congrès sioniste en 1901 qu'est prise la décision d'ancrer le sionisme dans la religion, en utilisant la Bible comme source historique et aussi comme cadastre. Parce qu'il faut convaincre une majorité de juifs, et la majorité des juifs, elle est religieuse. Et le sionisme va se présenter comme l'aboutissement naturel du judaïsme. Il fait de 2000 ans d'histoire diasporique juive une parenthèse, et il prétend ramener dans l'histoire le peuple juif.
Ouais, vous citez justement des auteurs qui s'opposent à cette vision un peu rétrograde, enfin pas rétrograde, mais une vision un peu étroite de l'histoire, parce qu'il explique que... en Espagne, les Juifs aussi ont créé une civilisation, à partir du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, et dans d'autres régions d'Europe. Et finalement, la culture juive, elle ne s'est pas que créée il y a 2000 ans, et après elle s'est arrêtée, elle vivotait.
Bien sûr. Non, c'est ce que j'ai dit dans la première partie de l'émission. C'est le sionisme qui constitue une rupture. Ouais. Il prétend que la rupture historique pour le peuple juif, c'est l'exil, qui est une parenthèse et le met hors de l'histoire et qu'il va réintégrer. Mais en réalité, c'est lui qui instaure une rupture dans le judaïsme. Vous savez, je crois que c'est en 400 avant Jésus-Christ que ce... J'ai peur de me tromper dans les dates. Alors, quand on est avant Jésus-Christ, moi, j'ai beaucoup de mal. Quand les Romains sont en passe de battre les Juifs à Jérusalem.
Alors non, ça c'est plutôt en...
vous allez me corriger tout de suite.
Je pense que c'est plutôt aux alentours de l'an 0, en fait. Pas en 400, en tout cas.
Oui, je me trompe.
Ouais. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas à 400...
Si je ne les ai pas sous les yeux, je vais dire des bêtises. Ouais. On a là un choix qui est fait, très important, qui est un choix qui, au fond, inaugure... la diaspora, d'une certaine manière. C'est le rabbin dont j'ai oublié le nom à l'instant, mais je vais peut-être m'en souvenir, attendez, parce qu'il est dans le livre. On en parle dans le livre. Son nom reviendra. Il va négocier avec les Romains. Et il leur dit, j'abandonne Jérusalem, mais vous me donnez Lod. Pourquoi Lod ? Pour y faire une école. Pour y construire une école de judaïsme. Et ils fondent la grande culture rabbinique se fonde dans cette école. Mais pour reprendre l'expression de quelqu'un, à partir de ce moment-là, le monde juif est monté sur roulette. Il n'est plus attaché. Et ce détachement-là se fait à ce moment-là grâce à ce rabbin dont le nom m'échappe, ce qui est ridicule parce que je connais que lui. Mais ça fait rien. Ça
on le remettra sur notre site. Et alors peut-être, oui, là, effectivement, on a fait un bond en arrière, mais pour faire après un...
Mais c'est pour dire que le judaïsme est plutôt héritier de cette école-là, de l'école qui était attachée aux pierres à Jérusalem.
Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
On va peut-être pas avoir le temps de parcourir les quatre autres arguments qui sont renvoyés par les sionistes aux antisionistes, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Il faudra qu'on parle un peu de l'actualité des arguments antisionistes, mais je vais quand même les citer. Le deuxième chapitre s'appelle « Sionisme et question nationale ». C'est que le sionisme prétend résoudre le « entre guillemets problème juif » par la normalisation du peuple juif à travers la création de son État-nation. Le troisième argument, c'est « sionisme et antisémitisme ». Le sionisme se présente comme la seule réponse à l'antisémitisme. Le quatrième, c'est sionisme, impérialisme, colonialisme. Le sionisme, en se considérant comme le fruit d'un mouvement d'émancipation et de libération nationale, accuse les antisionistes de délégitimer Israël en utilisant l'anathème de colonialisme et d'alliance. Vous
Alors
voulez peut-être en dire un mot.
Oui, parce que ça, c'est quand même assez drôle. Au départ, tous les premiers sionistes parlent sans problème de colonisation et de colonialisme. Ils sont entièrement d'accord avec les Anglais, avec ils ont négocié avec toutes les puissances impériales, avec l'Empire ottoman, avec les Germaniques et avec les Britanniques. Ça ne les dérange absolument pas du tout. Aujourd'hui, effectivement, devant les antisionistes qui critiquent la politique coloniale israélienne, ils disent que ce n'est fait que pour délégitimer Israël.
Et alors, le cinquième argument, c'est sionisme et après. Le sionisme juge qu'en soutenant le droit au retour des réfugiés palestiniens et la nécessité de désioniser Israël à travers les propositions d'un État commun de la mer au Jourdain, État binational ou État laïque de tous ses citoyens, les antisionistes œuvrent à la destruction de l'État d'Israël.
Oui, dans ce chapitre, on a surtout voulu donner un horizon. C'est-à-dire, puisque les antisionistes prononcent contre le sionisme, quelles sont leurs visions à eux de l'avenir de cette région, on va dire ? Comment ils envisagent est-ce qu'ils veulent que tous les juifs soient jetés à la mer ?
La vision des antisionistes. Hein.
C'est oui, ça. C'est ça.
Voilà. Ben oui, justement.
Ou est-ce qu'ils offrent des perspectives ? Ouais. On a essayé de regrouper là, dans cette catégorie, des gens qui avaient recherché des perspectives. Et ouais. Beaucoup en ont recherché.
Alors justement, vous pouvez peut-être ébaucher quelques perspectives de l'antisionisme, puisque le principe de l'antisionisme n'est pas de renvoyer les juifs à la mer.
En tout cas, pas celui de l'antisionisme juif. D'abord, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au début et que je voudrais dire quand même, c'est que autant l'assimilation antisionisme et antisémitisme perverse et dangereuse et qu'elle a une utilité politique qu'on peut vraiment déconstruire et montrer, autant nous on ne dit pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Et on ne dit pas qu'il n'y a pas un antisémitisme qui se sert de l'antisionisme. Mmh. Ça existe, nous le dénonçons. Alors, en plus, s'agissant d'antisionisme juif, tous ces antisionistes-là, même ceux depuis le début, se sont... Et même ceux qui sont allés vivre en Palestine, je n'ai pas parlé des annexes du livre, mais j'ai envie de le dire quand même. Dans les annexes du livre, on a mis des choses quand même super intéressantes, dont les plateformes...
Oui, vous citez de toute façon énormément d'auteurs hein, tout au long de votre
ouvrage.
Oui,
mais on a mis la plateforme de Brit Shalom, par exemple. D'accord. Brit Shalom, ça veut dire l'union de la paix. C'était conduit par toute une série de sionistes qui voulaient une sorte de rédemption du judaïsme dans la terre d'origine, mais qui ne voulaient pas de suprémacisme, qui essayaient de... Et qui ont mis au point une plateforme assez détaillée du partage des pouvoirs avec les Palestiniens, par exemple. Et après, les deux grandes directions, vous les avez données. C'est soit un État de tous ses citoyens, ce qui était au départ la première proposition de l'OLP, soit un État binational, c'est-à-dire un État dans lequel les deux composantes nationales palestiniennes et juives, israéliennes du coup, parce que c'est pas... Il y a une société, soit puissent vivre ensemble, quoi. Voilà.
Alors, aujourd'hui, oui, bah, aujourd'hui, justement, moi je voulais poser un peu la question de l'actualité des arguments antisionistes, parce qu'on a de l'antisionisme juif, hein, je précise du coup, puisqu'on a fait un saut dans l'histoire, en arrière, mais qu'en est-il aujourd'hui? Il semble quand même que le rapport de force se soit inversé. Au début, à la fin du 19e siècle, la majorité des juifs étaient antisionistes. Aujourd'hui, il semble que c'est plus le cas, ou en tout cas plus autant.
Attendez, c'est pas aujourd'hui. C'est autour de la guerre de 67, dite guerre des six jours par les Israéliens, c'est autour de la guerre de 1967 qu'a eu lieu la grande bascule, qui a ramené beaucoup de juifs dans le monde, dans le giron du sionisme, en narguant beaucoup de la peur. Faut se rappeler, enfin, vous ne l'avez sûrement pas vécu parce que vous n'étiez pas né, mais de la guerre menée par Israël contre les États arabes en 67 est une guerre préventive, c'est-à-dire c'est pas les États arabes qui attaquent, c'est eux qui attaquent, et ça a été présenté comme une guerre où Israël se défendait contre une menace d'extermination. Et 67, c'est pas loin, c'est pas loin de 1945, c'est pas si loin. Et ça a fait peur à énormément de gens, et ça les a fait basculer dans un sionisme je dirais, de soutien. Je me rappelle, à l'époque, il y avait des gens qui partaient en Israël comme volontaires pour aider les Juifs à ne pas se faire exterminer en Israël. Aujourd'hui, ils partent pour aller tuer des gens à Gaza. C'est encore autre chose. C'est bien pire. Mais, si on regarde le moment d'aujourd'hui, je crois que c'est un moment où, d'abord, où les Juifs antisionistes sont vraiment en hausse. Il se dit énorme, il faut regarder les États-Unis et le Canada quand même, déjà, et l'Angleterre, il faut regarder le nombre de juifs qu'il y a dans tous les mouvements de solidarité avec la Palestine, et leur rôle dans le BDS, et leur rôle. Je pense qu'il y a une vague qui est en train de remonter hors d'Israël, mais même en Israël, combien de gens sont partis? Alors, les gens qui partent d'Israël, ils partent pas tous parce qu'ils sont devenus antisionistes. Ils partent beaucoup parce qu'ils peuvent plus supporter la vie et ce qui leur est donné là-bas. Mais d'une certaine manière, ils reposent la question. Est-ce que vraiment le sionisme est là pour la protection des juifs du monde? Est-ce que vraiment ce qu'il fait est un bien pour les juifs? Cette question-là, elle est en train de traverser le judaïsme, et on est au milieu, donc je ne peux pas répondre pour aujourd'hui, mais je pense qu'il y a énormément de juifs. Alors, on ne peut pas non plus exclure le poids de la Hasbara, comme vous avez dit, hein, de la propagande. Ils veulent détruire les juifs, ils veulent les jeter à la mer. Tout ça, c'est pour délégitimer l'État juif. On a le droit à notre État comme tout le monde, même si on vit à San Francisco ou à Rouen. Hein. Je ne sais pas si la souveraineté est une exigence absolue, si on ne peut pas vivre comme des tas de gens d'origine différente, dans un même pays, avec les mêmes droits. Moi, je ne sais pas si ce n'est pas bien, ça. J'ai du mal à envisager un monde où, pour vivre, il faut écraser l'autre, quoi. Enfin, je ne veux pas.
Alors, je finis sur une dernière question. Vous allez me dire si vous voulez et pouvez y répondre. Est-ce que vous pensez que la clé de la paix au Proche-Orient passe par le réinvestissement de l'antisionisme par les juifs?
Ah oui, je pense que c'est très important. Pas que par eux. Ce que je pense, c'est que, honnêtement, l'antisionisme en France, regardez ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. On a mis un bâillon sur la bouche de tous les militants en France. Il y a des milliers, enfin, plus que 1000 plaintes pour apologie du terrorisme, si vous osez parler. Les étudiants ont été laminés dans les universités. Il y a un usage de l'antisionisme et de son assimilation à l'antisémitisme qui sert le génocide directement. Ce qui repose la question du sionisme, hein, d'ailleurs, et de tout ce que nous venons de dire. Il est donc vital et impératif qu'on soit capable d'assumer haut et fort qu'on est antisioniste, et pas que seulement quand on est juif. Et on peut dire « je suis antisioniste et je ne suis pas un raciste
ouais. ». Merci, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup Michel Ciboni.
Merci.
C'est la fin de cette émission et on revient le 23 octobre, normalement, avec Lianca Mijan, une activiste mapuche de Puel Mapu, c'est-à-dire la Patagonie argentine, dans les voies du crépuscule.
Merci. Bonne Pascal. Soirée.
Parmi les figures intellectuelles de gauche dans le monde arabo-musulman, farouche critique du sionisme, on peut citer Edmond Amran El-Maleh, Dian Assidoun et Brahim El-Serfati. Dans le contexte actuel du Maroc, la trajectoire de Serfati est particulièrement intéressante. Militant communiste et syndicaliste, il a marqué l'histoire des mouvements ouvriers au Maroc par son combat pour la justice sociale et l'égalité des droits, ainsi que par son refus radical d'identifier les Juifs aux projets et aux politiques sionistes. Cette lutte pour l'égalité et la liberté des peuples, y compris son soutien aux droits des Palestiniens et sa critique du pouvoir, l'a placé en conflit ouvert avec le roi Hassan II. Il sera emprisonné pendant 17 ans, de 1974 à 1991, puis déchu de sa nationalité marocaine et contraint à l'exil, avant de pouvoir rentrer au pays à la fin des années 90. Il déclare dans ses écrits « Le sionisme est un intégrisme. On ne peut le combattre qu'en lui opposant l'autre versant de la religion, celui de la justice et l'amour du prochain. » Ceci est un bref hommage à un homme dont la vie entière fut consacrée avec courage à lutter contre l'injustice et l'inégalité.